J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs sur Radio Okapi. Le 2 juillet de chaque année, une date bien gravée dans la mémoire de tous les Congolais, marquant notamment la clôture de l'année scolaire. À cette date, les écoliers et les élèves sont fixés sur leur passage ou non dans la classe supérieure. Cette année, rien n'est connu, l'incertitude persiste, aucune déclaration officielle des autorités et toujours pas un calendrier réaménagé fixant la suite de l'année scolaire paralysée depuis mars dernier suite à la Covid-19. Comment réagissez-vous? Certains observateurs estiment que, voilà, donc cette question doit être débattue pour sauver l'année scolaire. Vous êtes près de 10 345 à avoir été touchés par ces sujets. 1000 ont interagi et 35 parmi vous l'ont commenté et partagé. Merci de l'intérêt que vous accordez à nos débats. Vous voulez participer à cette émission? Composez directement le 081 890 63 30 ou bien le 081 890 49 69. Vous pouvez également commenter ces sujets à l'adresse pa@radiokapi.net. ou bien sur notre page Facebook. Polydor Basunga sur la mise en onde de cette émission, Pierre Lameji est à la réalisation, JR Lungembo Luabung Anji à la présentation. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiokapi.net.
Parole aux auditeurs, JR Lungembo.
Jean Bosco Pouna, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour JR.
Nous rappelons que vous êtes secrétaire général du SINECAT, le syndicat national des enseignants du réseau catholique. Le 2 juillet, c'est maintenant dans le passé, il n'y aura pas un autre 2 juillet dans les jours qui viennent, faute des déclarations officielles des autorités, pour sauver l'année scolaire.
Oui, en effet, le 2 juillet a vécu, et donc... officiellement, c'est la clôture de l'année, comme la tradition cette année n'a pas été respectée et les calendriers aménagés n'est jamais venu. Eh bien, ça nous laisse tous dans l'incertitude, ce qui démontre effectivement que c'est une année absolument difficile, probablement qui ne va plus compter.
Alors, pourquoi l'autorité hésite de déclarer officiellement une année blanche?
Bon, je crois que il y a des paramètres qu'il faut observer. Peut-être que l'autorité veut sauver simplement l'année, mais au niveau du syndicat, nous devons dire ceci, que au niveau de la synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo, cette synergie qui regroupe le SINECAT aussi et les syndicats des enseignants des écoles protestantes et d'autres organisations, nous nous sommes retrouvés en assemblée générale depuis le mois d'avril. Et cette Assemblée générale des enseignants a demandé au gouvernement à prendre des précautions dans le sens de pouvoir relancer les activités scolaires. Parmi les précautions qu'on a demandées au gouvernement, c'est notamment désinfecter les écoles des provinces concernées par la pandémie, aussi de se préparer avec le secrétariat technique de la riposte pour un dépistage obligatoire des élèves et du personnel enseignant, et aussi... ériger les dispositifs lavage main et des points d'eau, parce que dans nos écoles, beaucoup d'écoles n'ont pas de points d'eau. Et donc, ce sont ces précautions que nous avons demandé au gouvernement de pouvoir prendre. Et ça fait, depuis le mois d'avril jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement n'a pas réuni ce minimum de précautions. C'est ce qui fait aujourd'hui, eh bien, d'autres provinces sont touchées par la pandémie, d'autres provinces nous rejoignent et ça complique la situation sur le terrain. Donc, lorsque vous prenez toutes ces précautions qui n'ont pas été réunies, eh bien, il est difficile aujourd'hui de pouvoir parler encore de l'année scolaire 2019-2020. Nous, au niveau du SINECAT, nous invitons l'autorité à pouvoir simplement invalider cette année pour que nous nous préparions maintenant au mois de septembre 2020-2021. Ça serait logique parce que si nous ne nous préparons pas pour 2020-2021 en septembre, eh bien, même cette année-là, connaîtra beaucoup de problèmes. Parce que n'oubliez pas, pour que cette année-là commence, il y a des préalables, notamment, on doit construire de nouvelles classes ou ériger des classes en bâche, donc des fortunes, pour absorber les effectifs pléthoriques dus à la gratuité. Mais il y a un autre défi, c'est le paiement du deuxième palier, condition sine qua non pour la reprise des cours pour l'année prochaine. Et il y a également la publication des listes des NU retenues par province éducationnelle
Jean Bosco, un problème. Oui, mais Jean Bosco, dès lors qu'on sait que quand un enseignant a déjà dispensé le deux tiers de sa matière, il peut évaluer des élèves.
Et non, c'est l'argumentaire qui est présenté aujourd'hui. Ça n'a plus de sens aujourd'hui parce que c'est depuis le mois de mars, ça fait 4 mois. Et donc tous les élèves sont tombés dans l'inactivité. C'est comme un joueur qui doit aller en compétition, mais qui ne s'est pas entraîné. Ça fait 4 mois, les normes pédagogiques aujourd'hui ne permettent plus à nos autorités à pouvoir relancer l'année. Parce que ça fait 4 mois que les élèves sont restés dans l'inactivité, on ne peut plus évaluer. On va évaluer pour donner un diplôme à l'enfant, nous pensons que c'est un tort à notre jeunesse. Parce que nous étudions, les enfants étudient pour la formation, pour la vie, ce n'est pas pour les diplômes. Et donc aujourd'hui, si on doit aller dans les évaluations, notamment certificatives, ça posera problème par rapport au niveau de nos élèves. Ce qu'il y a mieux à faire, étant donné que la pandémie nous a tous neutralisés, il faut absolument que nous puissions nous dire, bon, cette année, 4 mois déjà passés, ça ne sert plus, eh bien préparons maintenant l'année prochaine. Et même au niveau des parents, je crois que ça sera responsable.
Voilà, alors, tout n'était pas paralysé, comme vous l'avez dit, 4 mois, parce qu'il y a eu des programmes en ligne, des programmes à la télé, des programmes à la radio.
Initiés par le ministère. Non. Je crois que les programmes en ligne, les classes télévisées, regardez quand vous suivez tous ces programmes, ce sont des conférences. Et donc ces classes ne peuvent pas remplacer les maîtres.
Qui ne respectent pas les normes pédagogiques.
Oui, la méthodologie que les maîtres installent en classe pour pouvoir conduire la classe, eh bien, ce n'est pas ce qui s'est fait. Nous encourageons ce qui s'est fait. C'est en termes de conférences que c'est donné, mais ça ne peut pas remplacer l'école, ça ne peut pas remplacer la classe, ça ne peut pas remplacer l'enseignant. Donc, quand vous prenez la 4e période qui n'a pas été donnée et qu'on amène les enfants 4 mois plus tard à pouvoir les évaluer pour leur donner un diplôme ou un certificat, que sais-je encore, je crois que ça sera irresponsable. Nous, en tant que formateurs attitrés, nous ne pouvons pas nous permettre cela. Il faut absolument que l'année soit invalidée, que nous puissions recommencer au mois de septembre, mais que le gouvernement se prépare à beaucoup de défis qui l'attendent.
Alors, lorsque vous dites qu'il va falloir invalider cette année, est-ce que vous pensez aux effets dominos, notamment des répercussions au niveau même des universités, parce qu'il n'y aura pas le bac qui sera organisé cette année, et certainement il n'y aura pas de candidats pour la première candidature à l'université, et ça risque de paralyser l'ensemble de l'éducation nationale.
Bon, c'est un choix à faire. Moi, je crois que qu'il s'agisse de l'enseignement primaire, secondaire, professionnel ou encore de l'université, il y a beaucoup de défis qui nous attendent aujourd'hui. C'est un choix qu'il faut faire. Est-ce que nous devons enseigner, nous devons aller évaluer simplement pour le plaisir d'évaluer? Non, il y a des normes pédagogiques que nous respectons en tant qu'enseignants formés. Vous comprenez? Si les normes ne répondent plus, eh bien nous devons avoir le courage de dire, eh bien nous stagnons, nous avons été surpris nous tous par la pandémie, la responsabilité ne sera imputée à personne, mais que nous ayons le courage de pouvoir nous dire, sécurisons la formation de nos enfants, mettons un halte, recommençons, et ça sera mutatis mutandis jusqu'à l'université. Parce que les enseignements n'ont pas été donnés, même lorsque nous disons que nous avons donné les 3/4 des enseignements au niveau de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Mais vous pensez que toute une période qui tombe comme ça, c'est rien. Nous pensons que c'est important. Et donc si nous amenons les enfants à l'évaluation pendant les mois d'ailleurs de la saison sèche, vous ne savez pas pourquoi le législateur a prévu que pendant le mois de la saison sèche, que les enfants restent à la maison. Et donc nous ne pouvons pas aujourd'hui exposer nos enfants à la pandémie, à la maladie. Il faut absolument que cette année soit invalidée par les autorités et que ces autorités se préparent aux nouveaux défis pour que l'année scolaire prochaine puisse être prise avec beaucoup de responsabilités.
Mais les frais déjà payés.
Même les débuts de l'année prochaine, oui. Ça sera catastrophique.
Mais les frais déjà payés, les parents ont déboursé de l'argent. Quoi qu'on parle de la gratuité, l'argent est payé dans des écoles privées. Mais alors, quelle sera la solution? Va-t-on rembourser des frais déjà payés pour ce qui concerne les écoles privées? C'est là où un auditeur a écrit, je crois que la difficulté qu'a aujourd'hui le ministre de l'enseignement il est lui-même jugé parti parce qu'il est propriétaire d'une école privée. Comment il va faire avec son personnel?
Oui, JR, la question est fondamentale. Mais il faut déjà dire que l'année scolaire 2019-2020, c'était la grande année de la gratuité, une des grandes réformes qu'a connu notre pays. Et donc, dans les écoles publiques, le problème ne se pose pas, parce que les enseignants continuent à toucher leur salaire au niveau des banques. Et là, nous disons coup de chapeau aux différents syndicats qui ont milité en faveur de la gratuité. Mais par contre, au niveau des écoles privées, je crois que l'argent qui a été perçu a servi à pouvoir donner de la formation aux enfants. Cette formation a été donnée jusqu'à X temps. Et la pandémie a surpris tout le monde. Je crois qu'il faut recommencer. Ce qui a été payé a compté par rapport à la formation qui avait déjà été donnée. Et ça, c'est par rapport aux écoles privées. Mmh. Les écoles privées aujourd'hui sont véritablement en difficulté parce que les enseignants présents dans ces écoles ne touchent rien, ne gagnent rien aujourd'hui, hein, contrairement à ceux qui sont dans les réseaux publics. Donc ceux qui sont dans les secteurs privés ont beaucoup plus de problèmes. Mmh. Ça veut dire que les parents responsables comprendront qu'on ne peut pas donner un parchemin, un diplôme à l'enfant, étant donné que ces enfants sont restés à la maison pendant 4 mois. Nous pensons que les parents vont devoir comprendre cela. Tous les partenaires d'ailleurs, au niveau du syndicat, nous invitons tous les partenaires à comprendre cela, les partenaires éducatifs, pour que nous tous nous allions dans une convivialité et dans toute sérénité, reprendre les activités, mais en tout cas pour 2020-2021, on n'aura pas préjudicé nos enfants que de leur donner un diplôme qui n'aura pas véritablement un contenu.
Voilà. Alors, avant de retrouver les auditeurs qui nous ont appelés pour intervenir dans cette émission, il y a 3 mois, vous vous souvenez bien, Jean Bosco Pouna, nous avons réalisé la même émission « Comment sauver l'année scolaire ?» Et au cours de cette émission, les ministres nous avaient confirmé qu'effectivement, il y a une commission qui travaille sur un calendrier réaménagé. 4 mois après, où en est-on ?
Bon, il faut dire que je crois que le ministre pourra répondre avec beaucoup de certitude à cette question, mais que je sache, en tant que partenaires sociaux, nous n'avons pas été associés dans l'élaboration d'un quelconque calendrier. Et même lorsque vous suivez le ministre devant la chambre haute du Parlement, vous allez bien vous rendre compte que c'était une fois de plus une promesse, parce que tout ne dépend pas de lui. Le ministre de l'EPS n'est qu'un maillon de la chaîne. La question de l'éducation aujourd'hui, c'est au niveau du gouvernement, au niveau du président de la République. Nous avons l'état d'urgence et vous allez bien comprendre que les classes sont bombées, saturées d'élèves. Alors, si au niveau du gouvernement, il n'y a pas d'options qui sont levées, mais le ministre de l'Enseignement ne peut rien. Donc, c'est au niveau du gouvernement où on doit dégager les options claires pour d'abord lever l'état d'urgence qui va permettre que tous les enfants puissent reprendre le chemin de l'école, mais aussi qu'on puisse prendre des mesures pour que même lorsqu'on va reprendre le chemin de l'école, que les mesures des barrières soient respectées. Or, nous tous, nous savons que nos classes aujourd'hui sont pléthoriques, mais il n'y a aucune disposition prise par l'État, par le gouvernement, quant à ce problème. Voilà pourquoi, au niveau du syndicat, nous continuons à militer en faveur d'une année blanche, et ça serait logique que voilà. Nous puissions nous préparer maintenant pour l'année prochaine.
On va comprendre la position de l'autre frange de la population, les auditeurs qui nous ont rejoints. Jean Bosco Pouna, nous vous gardons en ligne, il est temps d'écouter les autres, et puis on va revenir à vous pour poursuivre cette émission. Marie-Paul, vous êtes à Lubumbashi, Jean-Paul à Kisangani, 081-890-6330, ou encore les 081-890-4969.
Parole aux auditeurs.
Marie-Paul, vous êtes à Kisangani, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à l'invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Capitale.
Que pensez-vous de la position des Sinecat qui plaide pour l'invalidation de cette année scolaire?
Oui, merci pour la question monsieur le journaliste. Il est ce qui est logique, c'est-à-dire logiquement, l'année scolaire 2019-2020 est perdue. Et je pense que si ces syndicats a demandé, c'est en conséquence des causes. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à attendre que les officiers puissent déclarer cette année comme comme l'année perdue. Les officiers ne vont pas les réclamer, d'autant plus que il y a beaucoup d'enjeux. Parce qu'aujourd'hui, si ces officiers osent de les déclarer, je crois qu'il aura des récupérations politiques et les gens seront dans la rue. Il aura beaucoup plus de revendications. Et nous-mêmes, nous savons, nous voyons comment la pandémie est en train de contaminer les gens à la vitesse avec laquelle la pandémie prend. Et tout le monde doit se protéger parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit l'invité, on ne peut pas vouloir coûte que coûte envoyer les enfants dans leur péril. Ce n'est pas responsable. Donc, ce qui est vrai, c'est que cette année est perdue. Cette année est perdue. On ne peut pas entendre qu'un officiel ou même ses partenaires là puissent les déclarer parce qu'ils ne relèvent pas de leur compétence. Et le président de la République ne va pas aussi le faire et non plus le ministre. En dépit du fait que nous avons vu des mouvements dilatoires, on a mis des programmes en ligne, des programmes qui laissent à désirer. Il y a vraiment beaucoup de choses parce qu'il y a même d'autres coins qui n'ont même pas su qu'il y a un programme en ligne. Nous savons c'est quoi l'internet de notre pays, c'est quoi l'électricité de notre pays. Ce sont juste les propositions qui ont été inadaptées. On a fait justement pour essayer un peu de distraire les gens. Néanmoins, ce qui est vrai, c'est que le gouvernement congolais doit prendre sa responsabilité en invitant tous les partenaires. Ils se mettent autour d'une même table et discuter justement pour l'année prochaine. Parce qu'on ne peut plus discuter pour cette année. C'est une année qui est tacitement perdue. Et personne n'osera de les déclarer. Et comme l'année est perdue, ce n'est pas la fin du monde. Parce que nous tous, nous voyons. S'il y a le taux de contamination ne fait qu'augmenter chaque jour. Et ailleurs, nous le voyons, on a osé ouvrir les portes des écoles à Israël et ainsi par là.
Oui, Marie-Paul. Oui. Quand je lis le commentaire d'un auditeur qui évoque la question qui a été mal gérée, et lorsque il constate que dans les provinces qui ont été moins touchées, et pourquoi on a dû arrêter les activités scolaires? On aurait dû laisser ces provinces continuer à étudier sans problème et ça nous éviterait cette année blanche. Est-ce que vous pensez cet avis? On reviendra d'ailleurs sur cette question avec notre invité également.
Non, cet avis je ne le partage pas parce qu'aujourd'hui nous avons ce qu'on appelle, nous avons un système, l'éducation c'est un système. On ne pouvait pas sacrifier les uns et laisser les autres continuer et l'essor des autres là, non.
Quand vous évoquez cela, lorsqu'il y a eu Ebola dans l'est du pays, et on a remarqué que l'examen d'État s'était tenu partout ailleurs, sauf dans la partie touchée par Ebola. Et non, même non, chose avec les élections.
Pour la pandémie, pour la COVID, le mode de transmission, ce n'est pas comme Ebola. C'est une maladie, c'est une pandémie qui a surpris l'humanité et que toutes les précautions devaient être prises pour éviter qu'il y ait propagation. Parce qu'on ne sait pas qui est porteur. Nous voyons des gens circuler, ils circulent avec des maladies, on ne sait pas les identifier. Et surtout avec les temps d'incubation qui vont de 14 jours pour que ça se manifeste, c'était dangereux. Voilà que ces dispositions d'arrêter de fermer les écoles, même pour les provinces qui n'ont pas été touchées, c'était des dispositions normales parce que on doit protéger la population. Parce que si la situation devient et que beaucoup de gens sont contaminés, nous n'avons pas des hôpitaux, nous n'avons pas assez de médecins, et la situation devrait être catastrophique, et l'État ne devrait pas être en mesure d'assurer la capacité, parce que même avec les 7000 personnes qui sont à terre, et nous avons des difficultés de les prendre en charge. Je crois que ça, nous savons nos situations, nous devons être conséquents, nous devons être responsables pour éviter que les chaos puissent être jetés dans le pays au risque de périr au point que nous ne serons pas.
Avant de passer à Jean-Paul Kisangani, juste une dernière question pour vous. Comment comprenez-vous ou jugez-vous l'hésitation de l'autorité pour déclarer cette année blanche?
Non. Politiquement, l'autorité ne peut pas déclarer. Parce que il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de récupérations politiques. Nous avons des acteurs qui sont par-ci, par-là, qui aiment toujours, tisser les faits, qui aiment allumer les faits. L'autorité ne peut pas déclarer.
Donc vous redoutez simplement la récupération politique. Merci beaucoup, Marie-Paul. Jean-Paul, vous êtes à Kisangani, bonjour. Pardon, à Lubumbashi. Jean-Paul, vous êtes avec nous? Voilà, on a des petits soucis avec la ligne des Jean-Paul. Les temps pour nous de lire quelques messages qui ont été postés. Et nous, voilà, on va d'abord prendre Trésor qui est en Bougimaï. Trésor, vous êtes avec nous?
Oui, bonjour la Radio Café.
Vous avez la parole, Trésor. Quel est votre avis?
Oui. Oui, même si on applique la magie, il est, et c'est impossible pour l'année scolaire. C'est déjà blanche.
Donc même si
il
on
est
applique
important
la magie.
De dire la vérité. Oui. Il est important de dire la vérité. L'année est déjà blanche. Si notre invité est là, j'ai trois petites questions à lui poser, s'il est disponible.
Oui, allez-y.
Oui. Si l'État décide que les enfants reprennent les cours, ils vont étudier pendant combien de mois pour rattraper du retard? C'est ma première question.
Et la deuxième et la troisième?
Oui, la deuxième question, pour les écoles privées, certains parents ne travaillent pas pendant cette période de confinement. Est-ce que l'État congolais acceptera de supporter leurs enfants? Oui, la troisième et la dernière question. Allô?
Oui, allez-y rapidement, papa, allez-y.
Oui. Depuis le lancement de l'enseignement à distance, ils donnent aux enfants que les cours des français. Comment expliquer ça?
Merci. Voilà, réaction Jean Bosco Pouna, parce que vous avez suivi, c'est une question directe.
Oui, question directe, je dirais que... bon, si l'État décidait de la reprise des cours pendant combien de temps? Eh bien, je crois que c'est tout ce que nous sommes en train de dire ici, que ça sera responsable que cette année ne puisse plus compter, étant donné que nous avons déjà perdu tout le temps. Bon, mais s'il y a un forcing au niveau de l'État, je crois qu'il va réunir autour de lui tous les partenaires et on verra ce qu'on pourra faire. Notre plaidoyer va dans le sens de pouvoir libérer simplement cette année, parce qu'il faut savoir, je réponds aussi à Marie-Paul, eh bien, qui a dit de très bonnes choses, on n'étudie pas pour l'examen d'État. Donc, je crois que c'est très important. Les élèves étudient pour la formation, pour la vie, pour que demain, qu'ils soient capables de pouvoir s'assumer. Ce n'est pas pour l'examen d'État. Et la deuxième question que les camarades posent, bon, pour les écoles privées, est-ce que l'État pourra supporter? Je crois que jusque-là, l'État prend en charge les écoles publiques, des salaires, des frais de fonctionnement, etc. Et d'ailleurs, nous sommes en train d'envisager qu'on puisse respecter les promesses que le gouvernement a faites. Probablement qu'il va devoir les tenir. Mais pour les écoles privées, c'est vrai, elles ont raison de pouvoir demander des subsides auprès de l'État, parce que les écoles privées viennent à la rescousse de l'État. Nous pensons que ça sont des questions qui peuvent être débattues au niveau de nos différentes commissions entre l'État et les différents partenaires. Par contre, l'enseignement à distance a prouvé ses limites. Déjà, au niveau de la desserte en électricité, eh bien, ça fait défaut. Tous les enfants ne pouvaient pas être en mesure de suivre. Mais quand il dit qu'il n'y avait que le cours de français, que non. Je crois que beaucoup de cours avaient été enseignés. Malheureusement, eh bien, lorsque vous considérez la desserte en électricité, ça ne pouvait pas atteindre tout le monde. Et puis, la méthodologie utilisée ne permet pas que les enseignements puissent remplacer le travail du maître qui est fait quotidiennement.
Voilà, il y a Samuel Mouteba qui nous a écrit. Il dit ceci, le mieux est de rassurer les élèves et les étudiants ce qu'ils peuvent faire pour passer aux classes montantes. Que les finalistes fassent aussi leurs preuves comme d'habitude. Déclarer une année blanche, c'est freiner les uns et favoriser les autres fainéants qui n'aiment absolument pas l'école. Maître Ali Mouchaba Joseph, les autorités congolaises nous déçoivent du jour au lendemain avec leurs promesses dont elles ont du mal à concrétiser. Le mieux serait d'étaler la vérité cachée dont les autorités en ont connaissance. Qu'on nous dise si l'année est blanche ou pas, c'est le moment de le dire. Parce qu'après le 2 juillet, on est allé déjà une semaine après, il y a des inquiétudes qui persistent. Petillon, Benjamin, Mouachi, mon propos en est que cette année ne doit pas être blanche. L'argent qu'on a dépensé par nos parents, l'État aura-t-il le temps de nous le retourner? Nous avons refusé énergiquement que vive la RDC, pourquoi pas les Kassai. Merci beaucoup. Alors, on va retrouver Assoumani et Jean-Claude, je crois. Jean-Claude, la ligne s'est améliorée. Jean-Claude, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour, Jean-Claude.
Bonjour, Radio Capi. Bonjour aux auditeurs. Je suis à Lubumbashi.
Oui, quelle est votre contribution, Jean-Claude?
Ma contribution est que j'ai dit personnellement, je crois que l'année ne sera pas blanche. pourquoi j'ai dit l'année ne sera pas blanche, car l'ensemble des établissements ont ont franchi les trois quarts d'enseignement. Alors, ce que moi je pense, le gouvernement devra élaborer des stratégies de sortie des crises, adaptées à la réalité et à l'évolution de l'épidémie, et mettre en place les méthodes de protection, soutenues par le gouvernement, bien sûr. Ainsi, les élèves pourront reprendre un mois, parce qu'il restait justement, comme nous ici à Lubumbashi, là où mes enfants étudient, c'est pratiquement un mois d'études qui était resté. Alors, c'est un mois d'études-là, ils peuvent reprendre, et... Allô?
Oui, allez-y, vous avez la parole, rapidement.
Le un mois d'études, ils pouvaient bien reprendre et clôturer l'année, parce que jusque-là, il n'y a aucune sensibilisation au niveau d'abord des écoles, au niveau même des élèves. Ils suivent, je crois, à l'étranger, dans les émissions qui passent dans les canaux plus, comment on sensibilise. Mais moi, je trouve que le gouvernement, avec les médecins de la santé publique, ils devront quand même mettre des bonnes stratégies, des contrôles et suivis. À ce moment-là, les enfants peuvent reprendre une année et ainsi clôturer l'année et les enfants...
Voilà. Moins, donc vous souhaitez qu'il y ait reprise comme dans d'autres dans d'autres pays du monde, frappé également par la Covid-19, et ça s'en est quand même bien tiré avec un réaménagement de calendrier scolaire. Merci beaucoup, disons Jean-Claude, d'avoir appelé de Lubumbashi. On prend Assoumani. Assoumani, vous êtes Maniema, vous êtes avec nous.
Oui, bonjour aux auditeurs de la radio Kapi, bonjour aux présidents, ensemble avec vous.
Vous avez la parole. Quelle est votre réaction?
Oui, je vous appelle depuis la ville de Kalemie, pas la ville de Maniema,
voilà.
La province de Maniema plutôt.
Mm-hmm.
Et moi, je pense que la meilleure façon serait de dire la vérité avant qu'il ne soit trop tard, car pour le moment, il est pratiquement difficile et impossible de réaménager le calendrier scolaire. Alors que dans un mois presque, une nouvelle année scolaire devrait au préalable commencer. Et en plus... Pour réaménager les calendriers scolaires sur les journalistes, il y a certains éléments qu'il faut prendre en compte. Et en l'occurrence, il y a d'abord la durée des rattrapages de ces enfants-là. Et le deuxième élément, ce sont les mesures préventives qui luttent contre cette pandémie de Covid-19 avec le phénomène de la gravité de l'enseignement. Je pense qu'il est grand temps de dire la vérité aux parents, au lieu de donner un espoir de quelque chose qui ne se réalisera peut-être jamais. Et qui est pire encore, avec le niveau des enfants que nous avons aujourd'hui, qui ont déjà presque tout oublié, même si on nous parle des trois quarts de la matière qui a été épuisée, moi je pense que cela n'est pas la vraie raison, parce que ce qui est important, c'est la formation, c'est pas les trois quarts. Mmh. On ne peut pas ce qui est beaucoup plus au calendrier, ni beaucoup plus à la matière qui a été enseignée par les enseignants. Nous prenons tous la formation, et c'est la formation qui est à la base de tout ce que nous faisons. Est-ce qu'il sera possible de rattraper ces enfants pendant 30 jours, comme l'a précisé le ministre? Pour moi, cette situation devient de plus en plus inquiétante. En plus de cela, dans les écoles, tant publiques que privées, aujourd'hui, les élèves sont confinés. C'est-à-dire, dans une classe, on peut avoir même plus de 100 élèves, à l'exemple des écoles que nous avons à Calémie, avec le phénomène de la gratuité. Alors que le souci...
Mais Jean-Claude, là où, disons, la Covid-19, c'est une pandémie mondiale. Mais pourquoi, sous d'autres cieux, il y a des solutions idoines qui ont été proposées pour la reprise de l'année scolaire? Et bien entendu, avec le respect des mesures barrières. Mais pourquoi pas chez nous? Pourquoi quand insister pour une année blanche?
De toutes les façons, monsieur le journaliste, vous savez, quand vous voulez... faire une allusion ou donner un exemple quelconque, il faut tenir compte des moyens ou du niveau de vie de la population, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas comparer la RDC à la France. Pratiquement, les mesures préventives qui ont été prises en France ne seront pas les mêmes qu'en RDC, parce qu'ici, chez nous, d'abord, avec le phénomène de la gratuité, pratiquement dans notre ville de Calémie, c'est pratiquement difficile. Le phénomène de la gratuité a abondé des classes. Il y a plus de 100 élèves dans une salle de classe, par exemple, à l'école primaire. Et aujourd'hui, si vous nous parlez de la reprise des cours, est-ce que le gouvernement a songé à tout cela? Est-ce qu'on saura vraiment éradiquer cette maladie à coronavirus aujourd'hui dans la province de Tanganyika, pratiquement dans la ville de Kalemie? Ça sera un peu difficile, vous savez. Donc, c'est l'un des soucis. Mais voyez-vous pas que cela risquerait de produire les conséquences néfastes et compromettre même l'avenir de ces pays? Faisons une analyse scientifique et un calcul très simple, monsieur le journaliste. il nous reste combien de mois ou de jours pour que la nouvelle année scolaire commence? Si je ne m'amuse pas, c'est peut-être un mois. Alors, si il nous reste un mois, je pense qu'il est temps de dire la vérité aux parents. Parce qu'on n'étudie pas pour remplir les formalités du calendrier scolaire. Par contre, on étudie pour être les futurs cadres de ces pays ayant reçu une bonne formation. Non, les décisions prises par le ministre risquent de dégrader davantage le niveau de l'éducation et même compromettre les générations futures. Et moi, je pense que le ministre doit réfléchir sur ce point-là avant de songer à sa décision.
Merci beaucoup. Alors, on va prendre Simon Tiloulou à Matadi. Simon, vous êtes avec nous?
Oui, je suis là. Bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Je pense que tout ce qu'on dit là, la neige blanche, tout ça, ce n'est plus possible. On vit de ce qui a été déjà résolu ou réalisé antérieurement. Monsieur, retenez ceci, l'année scolaire en 9 mois. 9 mois, ça fait 270 jours. Moins les 34 dimanches, ça fera, je crois, 234. Moins les 6 jours fériés de l'année par rapport à l'école, ça fait 228. Moins les 6 jours, donc 2 fois 3 jours, ça fait 222. Alors, pour savoir ce qui a été enseigné réellement, il faut prendre le nombre de jours des enseignements. Le nombre de jours des enseignements, ce n'est pas difficile. Il suffit d'exclure de ces 222 les 28 jours de congés de détente de Noël, exclure également les 20 jours des examens de premier et deuxième semestre, exclure également les jours de révision, ainsi de suite. Vous allez voir, on va rester avec 270 jours, 74 jours d'enseignement. Le jour où on enseigne réellement. Et quand vous faites 274 jours fois 6, vous allez vous retrouver dans les 1000 quelques leçons par année. Et si vous calculez le temps déjà passé, vous verrez qu'on était déjà dans les 800 quelques leçons qui devraient être données par rapport au temps. Évidemment, si nous allons de 5 septembre jusqu'au 19 mars, parce que c'était le 19 qu'on a cessé. Au 19 mars, vous trouverez que on a fait 74,6% de matières enseignées. Et il ne restait que 24,4% matières à donner. Et ça ne restait rien, parce que déjà le 19, les 4, c'était prévu les congés de Pâques. Et puis après retour de Pâques, il y a ce qu'on appelle les dissertations, TENAFEP, qui prend encore des temps, qui ne sont pas les temps de cours. C'est pour dire que le contenu était déjà tellement avancé et la matière était déjà tellement enseignée à plus de 74 ou 75% moyenne.
Alors si c'est Simon. Si vous comptez avec des grèves qui étaient organisées à la rentrée scolaire dans certaines écoles catholiques, est-ce que vous pensez réellement qu'il y a eu dispensation de cours à hauteur que vous évoquez de 74,6%? Est-ce que vos calculs sont exacts?
Les calculs sont exacts par rapport au calendrier scolaire, parce que l'Église catholique ou sinon les catholiques n'ont pas tenu des grèves, c'était des grèves sporadiques, ce n'est pas l'ensemble, c'était quelques écoles de Gombe. Et nous ne pouvons pas généraliser toutes les écoles de la République à cause de quelques écoles de Gombe qui ont connu ça. À ce moment-là, quand vous êtes moins nombreux, vous subissez. Donc, la conclusion, c'est que déjà avec matière enseignée, et puis les évaluations sont passées par période et par...
Mais je crois que pour votre formation,
l'évaluation. On prend la moyenne annuelle de ce qui a été évalué. Parce que déjà avec 75%, vous n'allez pas demander à un élève de reprendre. C'est déjà une distinction. Comme on a déjà évalué sur le contenu des matières enseignées, les périodes et les semestres à l'école primaire, les deux trimestres et les six périodes. Vous voyez, on était déjà presque à la conclusion. Donc, comme le contenu, le gros du contenu a été donné, et que les évaluations, les gros des évaluations ont déjà été données, on fait la moyenne, et on dit de ce qu'on avait fait, plus les périodes qui ont suivi, on fait passer des élèves, au lieu de penser à une année
voilà,
blanche.
Voilà, nous vous gardons, oui, c'est Simon. Oui, Simon.
Et des élèves.
Simon, de... Simon, nous vous gardons en ligne, parce que vous êtes un syndicaliste également, mais je reviens à Jean Bosco Pouna, qui est notre invité. Comment il réagit par rapport à vos propos, quand il entend un syndicaliste, la société civile également, qui évoque, qui plaide pour l'évaluation des élèves et terminer l'année.
Oui, merci beaucoup. Mais Simon, toujours, c'est le provincial du Sénécat. Je crois qu'il a raison de faire tous ces calculs. Il est de bonne foi. Mais c'est un montage qui ne marche plus aujourd'hui. Dans la mesure où, eh bien, les calendriers réaménagés ne viennent pas. Les camarades Simon n'est pas capable de dire quand est-ce que ce calendrier réaménagé sera donné. Alors, au niveau du syndicat, avec les enseignants, nous évaluons les choses en tant que professionnels, c'est-à-dire les enseignants formés. Aujourd'hui, les normes pédagogiques n'autorisent pas que lorsque vous avez enseigné, que vous évaluez 4 mois plus tard, parce qu'il y a un fossé. Et lorsque vous prenez le postulat qu'on étudie pour la vie, on n'étudie pas pour les diplômes. Je crois que tout ce qui est en train d'être dit doit aller dans le sens de nous mettre en train de nous préparer pour l'année prochaine. Parce que si le gouvernement ne se prépare pas maintenant pour l'année prochaine, ça sera difficile même pour commencer l'année scolaire 2020-2021. À cette période, si nous respectons la tradition, c'est pendant cette période qu'on commence à élaborer les calendriers pour l'année prochaine, préparer les concertations avec les partenaires et préparer tout ce qu'il faut, les auxiliaires pédagogiques, pour que nous puissions démarrer normalement l'année prochaine. C'est dans le souci de ne pas rater l'année prochaine que nous, au niveau du Sénécat, et pour la plupart d'enseignants d'ailleurs, nous pensons qu'il faut absolument tourner la page de cette année. Nous ne perdons rien. Parce que si vous posez la question, qu'est-ce que nous perdons ? L'argent, moi je crois que l'argent ne dépasse pas la formation. Nous avons enseigné, c'est vrai, mais nous n'avons pas évalué selon les normes. Étant donné que le temps est passé, eh bien les enfants ne peuvent plus réagir efficacement. Je pense que c'est tout à fait logique et responsable que cette année soit tournée pour que nous puissions nous préparer pour l'année 2020-2021. N'oubliez pas, JR, qu'il y a des défis importants, notamment les effectifs pléthoriques. C'est maintenant que le gouvernement doit se préparer, parce que, avec ce que nous avons vécu tout au long de l'année 2019-2020, l'engouement que la gratuité a suscité, vous allez bien vous rendre compte pour l'année prochaine, eh bien, nous aurons peut-être 50% d'élèves qui vont rejoindre les écoles publiques.
Oui,
ça veut dire que c'est le gouvernement, c'est maintenant que le gouvernement doit se préparer au lieu de se laisser distraire,
oui, parce
à terminer une année avec beaucoup de lacunes.
Oui,
du Sénécat.
Oui, les gens attendaient une déclaration officielle le 2 juillet pour, au fait, lever les options et permettre aux uns des autres
de faire
une idée très claire, mais cela n'a pas été le cas. Mais là où ça étonne quand même plus d'un, pourquoi sous d'autres cieux, il y a un miracle qui s'est opéré, et même pour des écoles, certaines écoles privées ici localement, l'année a été clôturée sans problème. Nous prenons même des écoles consulaires où les problèmes ne se posent pas. Mais comment on a difficile, nous, au niveau localement, au niveau de l'autorité, de pouvoir lever des options durables?
Bon, il faut dire que nous sommes confrontés à des réalités différentes. Le gouvernement éprouve beaucoup de difficultés. Vous avez vu que nous avons la gratuité, mais il y a les défis de la qualité qui continuent à se poser. Et nous devrons aller en améliorant ces défis. Il faut absolument que nous ayons la qualité demain. S'il y a des écoles, par exemple, privées au niveau de la RDC qui ont pu aller jusqu'à la fin, jusqu'à clôturer, je crois qu'ils sont allés en dehors des instructions du ministère. Nous pensons que pour notre part, il faut absolument suivre ce que le ministère édite, et voilà pourquoi nous donnons conseil au gouvernement et au ministre de l'EPST à pouvoir simplement se prononcer en faveur d'une nouvelle année que nous devrons fiévreusement préparer. Alors, si vous prenez la réalité d'autres pays, un auditeur vous a même rappelé qu'il y a des écoles, qu'il y a des pays qui ont relancé les activités et qui ont encore fermé. La pandémie, elle est là. Il y a une insécurité qui ne dit pas son nom.
Or, aujourd'hui, si nous devons recommencer, même les dispositifs aux moyens de transport, les moyens de transport, eh bien, ce n'est pas garanti. Nos écoles, comment on va devoir fonctionner parce que il faut respecter les mesures de distanciation? Eh bien, les écoles n'ont pas été préparées. On n'a rien désinfecté. Tous ces éléments réunis nous disent que, en tout cas, à moins de ne pas être responsable pour que l'année soit relancée, nous nous disons que c'est maintenant que nous devrons donner du temps au gouvernement pour qu'il prépare en toute responsabilité l'année prochaine 2020-2021 et nous pensons qu'il va devoir prendre toutes les mesures qui s'imposent, notamment désinfecter les écoles, chercher à ajouter des classes, pourquoi pas, pour que cette année-là, les élèves puissent étudier normalement. Je crois que nous ne perdons rien.
Voilà.
Nous ne perdrons rien en
une année,
d'ailleurs, indépendamment de notre volonté.
Voilà.
La pandémie est là, et bon, nous devons faire avec.
Voilà, Jean Bosco, nous vous gardons encore en ligne, il est temps de revenir. Simon, vous êtes avec nous, hein?
Oui,
j'ai une réaction rapidement avant que je retrouve Lionel qui est à Mbujimayi.
En fait, ce que notre général vient, le secrétaire général de Sénécat vient de dire, mon chef direct, c'est aussi vrai, une réflexion. Mais ce que nous aussi, nous rappelons au Sénécat aussi, c'est la démocratie, on prend des points de vue. Mais ce que nous avons pensé, pour ne plus revenir à l'école, parce qu'il n'y a pas de dispositions qui ont été prises. Et comme le contenu a été fait au moins à 75% plus, et que nous avons fait des évaluations par des périodes, ainsi de suite, on peut considérer seulement ces évaluations pour qu'on ne rentre pas à l'école, et puis en septembre, on reprend le cycle normal avec ce qui avait déjà été fait. Parce qu'en pédagogie aujourd'hui, si le premier trimestre, un enseignant qui n'a pas bien avancé au premier trimestre, ça sera fini. Au premier semestre, pardon, au trimestre. Quand vous ratez ce trimestre-là, parce que les trimestres qui viennent, il y a beaucoup de réalités, des évaluations et tout ça qu'on sort. Comme le contenu a déjà été là sur base d'un fond vécu ou en direct, on peut prendre ceux qui ont déjà réalisé cette réussite. Et on les fait passer des classes, et ceux qui n'ont pas échoué et ceux qui n'ont pas réussi échouent. Comme ça, les choses restent comme telles. Dans l'entretemps, comme le général vient de le dire, on prend déjà des dispositions telles que
pour l'année 2020-2021,
il y a des postes qui ont été supprimés, tels que Sentinelle et l'infirmerie et tout ça qu'on sort. Or, il y a beaucoup d'écoles qui deviennent pendant la nuit des flamingos, des lieux des anges, des jouissances, ainsi de suite. Et puis, on laisse les enfants. Il y a même des brigades, des hygiénistes qui n'existent plus dans des écoles. À l'école primaire, qui font la propreté des toilettes, des salles, sont des petits, les vulnérables des enfants-là. Mmh. Il faut rétablir ces postes-là.
Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Simon.
Primaire, où il y a la gratuité.
Ouais. Merci Simon. Ouais, Simon, merci d'avoir partagé ces moments avec nous. Il est temps de laisser aussi les autres parler. Lionel, qui est à Mbujimayi, qui nous a rejoint. Lionel, bonjour. Voilà, on a des petits soucis avec la ligne de Lionel. John Basubi nous écrit depuis Rutshuru, au nord Kivu, dit ceci, à mon humble avis, parler de la persistance de l'incertitude quant à ce refusé de reconnaître que l'année scolaire 2019-2020 avait pris fin vers le mois de mars 2020, tout en laissant les intéressés dans une profonde léthargie et qu'on leur demande de se réveiller en date du 10 juillet, juste pour leur rappeler qu'ils ont manqué de répondre à un grand rendez-vous. C'est vraiment dommage. À mon avis, j'opte pour l'option de la moyenne pour cette année, nous dit Galant Kamanga, de façon à permettre un début normal de l'année 2020-2021. Galant nous écrit depuis Lubumbashi. Mbandaka, Miché Bosenga, nous savons tous la question reste la seule qui est celle qui n'aura cette année une année blanche ou une année élastique, car la pandémie a modifié toutes les activités du monde. Donc je crois que cette année doit être déclarée aussi année blanche. Dieudonné Kabeya, ce n'est pas le Dieudonné de Radio Kapi, depuis Kananga, dans la province du Kasaï central, nous dit ceci: à mon humble avis, nous constatons que le gouvernement congolais est incapable de nous fixer un calendrier réaménagé pour clôturer cette année et nous demandons pur et simplement la démission du ministre de l'enseignement primaire et secondaire. C'est Ruben Mboula Ndongolo qui est depuis Kisangani. Pour notre part, nous pensons que la reprise des activités scolaires dans ce pays tient aussi compte de la reprise des activités académiques. Et il faudrait faire tout pour que cela se complète. Nifis Ndouani depuis Kichanga. Proche de la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu. Il vous dit, s'il vous plaît, les autorités doivent chercher tous les moyens possibles pour que cette année ne soit pas une année blanche. Réaction, Jean Bosco Pouna.
Oui, je crois que c'est le souci de la population. Vous vous rendez bien compte que c'est vraiment partagé. Selon que nous privilégions la formation de nos enfants qui doivent étudier pour la vie et non pour les diplômes, nous pensons que il est temps que nous ne puissions plus nous distraire. Il faut aller directement vers la préparation de l'année prochaine parce que, eh bien, il faut prendre les mesures sanitaires préventives. C'est maintenant qu'il faut se réveiller. Sinon, nous serons encore rattrapés. Eh bien, lorsque nous parlons de l'option de la moyenne, j'ai dit déjà que l'option de la moyenne pour faire passer les enfants des classes, eh bien, dans aucune directive de l'enseignement, vous trouverez cette option acceptée. Même l'option de passer à l'évaluation beaucoup de temps après, je crois que tous les pédagogues sont d'accord avec nous qu'on n'évalue pas les élèves, les apprenants de cette manière-là. Nous devons continuer à respecter les normes. Et voilà pourquoi nous demandons à tous les partenaires d'accepter que l'année soit invalidée pour que nous puissions recommencer l'année prochaine en toute beauté. Et nous demandons au ministre de l'EPC à pouvoir se prononcer parce que la pandémie nous a surpris, c'est une maladie qui est arrivée. Et donc ça a neutralisé, ça nous a paralysé. Nous pensons qu'aujourd'hui, si les mesures préventives sanitaires sont prises, ça sera une bonne chose, mais pour l'année 2020-2021.
Voilà, alors on va écouter Lionel qui est en Bouchimaï. Je crois que la ligne s'est améliorée. Lionel, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, bonjour hier, bonjour à tous les auditeurs.
Vous avez la parole, Lionel.
Oui. La thématique étant tellement profonde, moi j'ai suivi avec intérêt les interventions des uns et des autres par rapport à la question. Pour moi, je suggérais que cette année devrait être sauvée avec le 2 mois de congé que les élèves devraient bénéficier. Parce que, selon le ministre de l'Enseignement, il y avait déjà 3/4 de la matière déjà vue. Alors, si on veut sacrifier cette année ou dire que non, l'année, on doit calculer les points obtenus par les élèves pour leur donner un pourcentage en fin de terminer l'année, eh bien, ça va créer aussi un problème parce qu'il y a d'autres élèves qui devraient à tout moment abandonner ou laisser les études ou n'arriver pas à la fin. Toutes les conséquences-là n'étant pas prises en compte, moi, je préfère que l'année peut être prolongée avec les 2 mois, le mois de juillet et d'août, voire même la moitié de septembre, de sorte que le ministre puisse prendre les dispositions nécessaires, comme il l'a annoncé devant le Sénat, afin que l'année puisse être prolongée. Sinon, si on va encore dire que non, cette année va s'arrêter à ce niveau. L'autre année-là, qu'est-ce qui nous garantit que la maladie sera encore déjà terminée et qu'est-ce qui nous garantit qu'on aura continué bonnement?
Donc, vous préférez que, disons, l'option levée qui a été proposé par les ministres au niveau du Sénat puisse être adopté dans le sens de la reprise des cours, parce qu'on vit avec la maladie, on ne sait pas jusqu'à quand, donc il faudrait donner l'occasion à nos enfants de reprendre les activités scolaires. Merci beaucoup. Alors Mati, vous êtes à Matadi, madame, vous êtes avec nous depuis Matadi.
Oui, je suis là.
Vous avez la parole, madame Mati.
Ouais, non, je pense que l'arrêt des cours a été brisqué. Avec moins de 10 cas déjà, on parlait de stopper les enseignements dans toute la République. Moi, je pense que c'était brisqué. Au lieu de faire dans toutes les provinces, on devait seulement stopper dans la ville de Kinshasa et là où il y avait la présence de la pandémie. Or, s'ils avaient bien réfléchi, ils pouvaient seulement supprimer les vacances de Pâques pour qu'on puisse récupérer ce temps-là. Et au plus tard, déjà au mois de mai, avec le nombre de jours là de vacances, de fêtes, on allait déjà terminer le programme scolaire. Et maintenant, ça devient difficile avec tous les cas qui sont maintenant dans toute la République, avec toutes les provinces. Là, pour relancer les activités scolaires, ça devient un peu difficile, mais ce qui n'est pas impossible. C'est juste une question de bien réfléchir, de voir comment est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut gérer cette crise. Parce que nous savons néanmoins que nous n'avons qu'un seul choix en entendant l'éradication totale de cette maladie. Nous devons vivre avec la pandémie. Donc,
alors, quand les autres craignent, redoute une année blanche. Vous pensez à quoi concrètement aujourd'hui? Est-ce que vous estimez que on a quelque chose à perdre si on décrète l'année blanche?
Bien sûr que oui. Écoutez, moi je suis enseignante professeure. Je sais que cette année, si on réfléchit bien, comme je viens de le dire précédemment, il ne peut pas être année blanche. Vous savez, on a déjà consommé des trimestres. Les élèves du niveau primaire étaient déjà au niveau des épreuves de deuxième trimestre. Ils ont déjà consommé des jours des examens. Alors, nous autres, au niveau secondaire, il nous restait seulement une période. Donc, j'ai dit que on ne peut pas déclarer une année blanche pendant que les enfants ont consommé les trois quarts de l'année. Le ministre a raison, c'est ça. Donc, et si on pense aussi aux finalistes des humanités qui ont payé des souches, des captures de photos, avec tout ce qu'ils ont fait comme dépenses, décréter une année blanche, c'est vraiment pas une solution. La solution est de réfléchir. Et essayer un peu de réaménager les calendriers scolaires pour trouver une solution, comment est-ce qu'on peut terminer le troisième trimestre pour l'école primaire et pour nous, la quatrième période qui était restée. C'est pas difficile, il suffit seulement de bien voir qu'est-ce qu'il faut faire, comment mettre des barrières pour terminer l'année scolaire. Déclarer l'année blanche, vraiment, ça serait quelque chose de pas bon.
Merci beaucoup, Madame Mathy, d'avoir appelé et de m'avoir dit. Pour vous, vous estimez qu'une année blanche n'est pas importante. Il faudrait voir quelles mesures prendre pour permettre aux enfants de reprendre l'école. Alors, Jean Bosco Pouna, votre réaction?
Oui, je crois que nous avons peur de cette réalité, mais elle est là. Parce que, quelles que soient les propositions qui sont faites, vous vous rendez compte qu'après, les gens se rébiffent, se ravisent qu'effectivement, ça sera difficile. Vous avez un calendrier réaménagé et puis vous envoyez les enfants dans les écoles qui ne sont pas désinfectées. Je ne vois aucun parent accepter que les enfants soient exposés à la pandémie. Et même nous, les enseignants, nous n'allons pas accepter d'aller travailler au moment où nous savons que les écoles ne présentent pas la sécurité nécessaire. Parce que les enfants peuvent venir avec la maladie, contaminer les enseignants. Les enseignants peuvent venir avec la maladie, contaminer les élèves. Donc, tant que ce préalable n'est pas réuni, il ne sera pas responsable de pouvoir relancer les activités scolaires. Nous avons parlé de dispositifs lavage main, les points d'eau. Bon nombre d'écoles en République démocratique du Congo n'ont pas d'eau, n'ont pas de points d'eau. Ça, c'est un travail que le gouvernement devrait faire en amont. Mais jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas fait. Hein? On peut continuer un peu beau dire, parler du calendrier réaménagé. Ce calendrier qui ne vient pas. Mais ce calendrier viendra résoudre quoi? Parce que nous allons amener les enfants, nous allons exposer les enfants à la pandémie. Je crois que le mieux à faire pour ne pas continuer à perdre des temps, c'est ce que nous avions dit. Il faut que le gouvernement prenne des mesures préventives et ça sera pour l'année prochaine. Mais il y a également d'autres préalables. Les enseignants ne veulent pas recommencer les enseignements par rapport au deuxième palier qui n'est pas payé, par rapport au paiement, à l'impayement des nouvelles unités. Ce sont des questions que nous devrons discuter maintenant et puis la question des infrastructures qu'on doit améliorer. Je crois que nous sommes en train de tâtonner. On va à gauche, on va à droite. Mais personne ne donne la vraie solution. La vraie solution, c'est de pouvoir recommencer simplement cette année. Bon. Vous voyez, les parents ont toujours peur que les enfants reprennent l'année. Mais ici, nous avons une réalité, c'est la pandémie. Je crois que le gouvernement doit se mettre réaliste, à sa place pour pouvoir invalider l'année et préparer attentivement l'année notre prochaine. Année.
Voilà. Alors, on va. Arsène, vous allez juste placer un mot en une phrase. Arsène, vous êtes à Lubumbashi, Arsène.
Merci pour la parole. Oui, juste une phrase, parce que le terme du jour est tellement capital. Nous relevons seulement deux difficultés majeures face à cette année scolaire. La première, rapidement, c'est le gouvernement a rendu gratuit l'enseignement des bases. Ceci engendre deux autres problèmes, à savoir l'augmentation du nombre d'élèves par classe. Et le deuxième, c'est le problème concernant le quotient intellectuel des élèves. Mmh. Les élèves étaient déconnectés du système éducatif, mais aujourd'hui, ces élèves ont l'opportunité d'intégrer le système. Alors, déjà, à la première période, ces élèves n'ont pas réalisé le point qui était tout à fait fameux. Et face à toutes ces difficultés, nous demandons à l'autorité, le régulateur du système éducatif dans notre pays, de nous dire par quel mécanisme l'autorité va nous donner, n'est-ce pas, le calendrier, ou quel mécanisme que l'autorité va mettre en place, parce que ça reste...
Voilà, on ne saura pas aller plus loin, Arsène, désolé, on va s'arrêter là. Merci à Jean Bosco Opuna, secrétaire général du SINECAT, syndicat national des enseignants qui travaille dans les réseaux catholiques. Merci également à vous, chers auditeurs, qui avez participé à cette émission. Merci aussi à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission, Jean Basunga, Polydor Basunga et Pierrot et la Mégie. Nous prenons rendez-vous avec vous demain dans un autre numéro des paroles aux auditeurs. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence d'AP.